à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne pour la seconde partie de l'entretien avec Claire Delbar, directrice de la maison d'édition L'Atelier des Noyers, située à Périgny des Dijon. Pour cette seconde partie d'émission, j'ai envie de... Bonsoir d'abord Claire.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Je vous en prie. J'ai envie de vous poser une question... L'atelier des Noyers pourrait-il un jour évoluer vers une nouvelle identité ? Par exemple, j'ai vu dans votre CV que vous étiez polyglotte, passionné de la langue allemande, et vous avez une expérience en littérature jeunesse. Alors moi qui suis professeur documentaliste de métier, je me suis rendu compte qu'on manquait un petit peu de livres faciles à lire en allemand pour les collégiens. Est-ce que vous pourriez un jour imaginer vous lancer, c'est presque une invitation que je vous fais là, vous lancer dans la publication de petits livres en allemand?
Alors c'est gentil de dire que je suis polyglotte, j'ai étudié les langues, dire que je suis polyglotte c'est peut-être un petit peu trop important. On a déjà à l'atelier des Noyers une collection bilingue où nous avons au titre franco-allemand 4 titres si je ne m'abuse et un titre franco-slovène en poésie. C'est plus difficile de vendre de la poésie bilingue ou des ouvrages en bilingue que des ouvrages classiques. Donc pour une petite structure, ça pose un problème, ne serait-ce que pour retrouver son public. Même si on a l'impression qu'il y a un manque, il faut aussi qu'il y ait un public pour pouvoir recevoir ces ouvrages-là. Donc je ne pourrais pas forcément répondre à cette question. Sur la question de l'évolution de l'atelier des Noyers, forcément on a des axes qui, en fonction de l'actualité, en fonction des propositions qui sont faites, et en fonction de la ligne directrice qu'on a envie de donner, peuvent infléchir une ligne éditoriale. Chez nous, c'est quand même principalement la poésie, et la poésie avec en écho des images. Donc je pense qu'on va essayer de rester sur cette ligne.
Vous restez sur cette ligne-là? Oui, parce que justement, mon invitation, c'était de dire, est-ce qu'un jour, vous pourriez imaginer de publier des petits romans ou...
Je ne suis pas sûre de ça, déjà compte tenu de mon âge, parce que j'arrive à un âge où normalement on est presque à la retraite. Donc aller sur de nouveaux secteurs, ça serait pas forcément facile à inscrire dans le temps, au moins, puisqu'il faut un moyen terme pour installer des collections. Donc je ne suis pas sûre de ça. Et puis j'ai vraiment... Je pense que l'axe de l'atelier des Noyers est vraiment de publier des textes poétiques qui font écho ou qui sont en écho avec des images. Aller sur un autre secteur d'activité nécessiterait un temps long que je n'aurais pas forcément compte tenu de mon âge, donc ce n'est pas forcément quelque chose que j'envisage. Et je pense que la collection montée répond vraiment à ce que j'avais envie de faire, donc j'ai envie de rester pour l'instant sur cette ligne-là.
Très bien. En 25 ans, un quart de siècle, Claire, le monde de l'édition a tout de même été chamboulé. Beaucoup de choses qui...
Considérablement.
Il y a notamment l'avènement du numérique, la crise Covid, etc., qui a beaucoup bousculé les choses aussi. Comment avez-vous vécu et comment avez-vous suivi toutes ces évolutions?
Alors, pour pouvoir exercer le métier d'éditrice depuis maintenant presque 40 ans, il faut avoir une forme de souplesse d'esprit, de s'adapter aux nouvelles technologies. Parce que concrètement, c'est comme ça que nos métiers maintenant s'exercent. J'ai toujours eu, moi, comme ligne de conduite, de me dire que je ne refusais pas tout ce qui était nouveau pour autant que ça apporte quelque chose de plus et non pas quelque chose de moins. Mmh. Donc quelque chose de plus, c'est peut-être faciliter le travail. Ça peut être rendre des tâches plus faciles à faire. Ça peut être aussi de gagner du temps sur un certain nombre de choses. Le passage, par exemple, du manuscrit à l'informatique avec les traitements de texte, puis les logiciels ensuite de mise en page, nous a permis de rectifier des choses beaucoup plus facilement qu'on ne le faisait à l'époque où il fallait refaire des films et des cromalins quand on faisait des erreurs. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas contre la technologie. Mm-hmm. Maintenant, il y a des éléments où quand ça va trop vite, on n'a plus le temps de réfléchir aux incidences que ça va avoir sur la production complète. Donc là, pour moi, c'est plus problématique. Ce qui nous arrive là maintenant avec l'IA, par exemple, c'est une vraie réflexion à avoir qui n'est pas une réflexion simplement sur notre cœur de métier, mais ce qui est une réflexion sur le cœur de la société et sur les incidences que cela va avoir sur l'ensemble des métiers existants.
Oui, je précise pour nos auditeurs, l'IA, l'intelligence artificielle. Je précise l'intelligence artificielle.
Pour l'IA, oui, pour l'intelligence artificielle. Oui. Du point de vue de l'édition, nous, comment, en poésie, on est plutôt comment, préservé dans le sens où, pour moi, il n'y aura jamais la même âme avec une intelligence artificielle par rapport à la poésie, mais on peut demander à ChatGPT ou à une intelligence artificielle d'écrire des poèmes, ça sera peut-être pas mal fait, ça n'aura pas l'âme d'un poème, et nous, de toute façon, concrètement, à l'atelier des noyés, on travaille sans intelligence artificielle, c'est un choix assumé, peut-être qu'on passera à côté d'énormes opportunités, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça.
Y compris même pour des facilités techniques, comme celles que vous évoquiez tout à l'heure. Vous
Alors, quand je dis on ne travaillera pas du tout avec l'intelligence artificielle, mon expert comptable peut-être va travailler avec l'intelligence artificielle. Donc indirectement, on aura des impacts sur nos pratiques. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'éditorial, qui est, je considère, mon cœur de métier, ça restera quelque chose d'individuel, parce que la poésie est quelque chose de singulier et pas quelque chose de modifiable par l'intelligence artificielle.
Alors, on parlait la semaine dernière des lecteurs, et au sujet de la critique littéraire, elle a aussi beaucoup évolué, parce qu'on est passé en quelques années d'une critique littéraire, on va dire plus académique, que l'on trouvait dans les magazines littéraires, dans les journaux, qu'on a aussi vu dans des émissions de télévision comme Apostrophe, etc. Aujourd'hui, la critique littéraire est passée du côté des réseaux sociaux. Elle passe de plus en plus. Et où finalement, l'évolution de la critique se fait de la manière suivante. On ne critique plus trop le fond, mais on s'exprime par les émotions, par les sentiments. Je pense à l'exemple d'une adolescente qui avait écrit un jour sur Booknode. Eh bien voilà, j'ai lu tel roman, j'ai pleuré comme une madeleine pendant 3 jours, etc. Est-ce que vous ressentez cela, vous ? Est-ce que les critiques de vos livres, alors elles se font beaucoup, si j'ai compris ce que vous nous avez dit la semaine dernière aussi, par le bouche à oreille et les salons, etc. Mais comment vous ressentez aussi cette évolution vers quelque chose d'un peu plus
Alors je scindrai ça en deux parties par rapport à votre question. La question de la réception, d'une part, comment on peut percevoir lors des salons, et la question de la critique. La critique avec la rédaction d'articles de recension, elle existe toujours. Nous, sur notre secteur de poésie, on a des revues de poésie qui ont une part de leur ouvrage qui est réservée à la recension des titres et à la critique des titres. Donc on va pouvoir trouver, dans certains cas, nos ouvrages recensés. Je pense à une revue numérique comme Terre à Ciel, ou même des revues papier, Recours aux poèmes. Bon, il y a différents, on peut en nommer différentes. Maintenant, ça va pas être c'est pas ce qui va nous permettre de nous faire connaître. Donc les recensions après, qui sont des critiques, mais qui vont être des critiques plus singulières, plus des ressentis, je vais dire, sur les ouvrages, comme sur Babelio, vous pouvez avoir des recensions d'autres lecteurs. C'est autre chose, c'est pas une lecture critique, et ce ne sont pas des articles critiques sur la production. Sur le secteur de la poésie, de toute façon, on est un micro-secteur, donc nous, sur tous les ouvrages que nous publions, on n'a pas systématiquement de la presse. Sur la presse papier, il fut un temps où nous avions une rubrique « Livres » dans le bien public dans notre région, par exemple, qui n'existe quasiment plus. Il faut trouver d'autres moyens, effectivement, de se faire connaître. Les réseaux sociaux, nous, à l'Atelier des Noyers, nous avons une page Facebook, une chaîne YouTube et un compte Instagram. Ces éléments-là, effectivement, nous permettent de mettre en avant les ouvrages, mais ça ne va pas être une critique scientifique de l'ensemble. Les vraies recensions d'ouvrages, elles se font toujours par des personnes dont c'est le métier, et elles sont de plus en plus rares parce que ça prend du temps.
C'est ça.
Et que nous sommes nombreux à publier.
Oui, bien sûr, il y a des réseaux sociaux qui sont tout à fait corrects. Vous citiez Babelio, c'en est un exemple. Dans un monde de l'édition qui adopte aussi de plus en plus un schéma économique de type acquisition-fusion, fusion-acquisition, on peut le dire comme ça aussi, nous avons des gros oligopoles,
oligopole à franges.
Voilà, je ne veux citer personne, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comment une petite maison d'édition comme l'Atelier des Noyers peut vivre et continuer à vivre et se faire remarquer et entendre?
Dans le secteur de la poésie, nous sommes un certain nombre d'acteurs. On a pu le voir là au marché de la poésie, peut-être 350 ou 400 présents. C'est un petit secteur et où on peut se faire identifier par la singularité des ouvrages que nous publions. Dans une première partie de, comme professionnelle, j'ai travaillé pour Bordas. Bordas, à l'époque, faisait partie de Vivendi, qui a été depuis racheté plusieurs fois. Ce n'est pas le même travail et ce n'est pas la même visibilité, mais c'est aussi un choix. Quand j'étais chez Bordas, c'est que la première méthode de lecture dont je me suis occupée, on appuyait sur le bouton pour 45 000 exemplaires. Nous, à l'atelier des Noyers, quand on publie un ouvrage, on appuie sur le bouton numérique pour 100 exemplaires au départ. Mmh. Ce n'est pas la même vision. Mmh. Mais c'est comme la vision de la société. On a les petits colibris avec les chemins de traverse et les grandes autoroutes. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce qui se passe d'important se passe sur les autoroutes, mais ça, c'est une vision toute personnelle. Mmh. Et en tout cas, le choix que j'ai fait à plus de 50 ans, c'est de me rapprocher de ce qui était important pour moi. Mmh. Et donc, d'avoir des vues singulières sur le monde, des peut-être paires de lunettes un peu différentes pour regarder ce qui nous entoure. Et peut-être avoir... au détour de cette chose-là, une forme de mission d'éclairer les choses de manière différente. Donc c'est un choix économique qui est compliqué, hein. Je n'ai pas de tabou sur le sujet, je me verse un demi-smic et heureusement que j'ai un mari qui travaille, mais l'argent n'est pas forcément le moteur d'un certain nombre de choses, et dans mon cas, c'est vraiment le sens que l'on donne à son travail et la mission que l'on a à accomplir qui est importante. Donc, tant que nous ne souffrons pas de la faim, nous pouvons aller sur d'autres horizons. Et quelque part, ouais, y a quelque chose de l'ordre de la mission. Moi, je fais ça parce que je pense que d'abord, je suis passionnée. Je ne me vois pas faire autre chose. Mmh. C'est une colonne vertébrale. Le matin, quand je me lève, je suis heureuse de ce que je fais, même si je suis parfois fatiguée parce qu'on travaille comme des fous. Mais pour autant... j'ai l'impression de faire quelque chose qui est utile à la société et qui permet de porter un regard différent. Donc, c'est aussi le sens. Accueillir la différence et la diversité, ça nous rend plus humains sur Terre et on a peut-être besoin de regarder les choses de cette manière-là plutôt qu'avec les grandes autoroutes.
Vous avez un regard critique sur l'édition et c'est vraiment tout à votre honneur de par la mission que vous exercez justement, je trouve. Vous êtes une petite maison d'édition locale, mais vous m'avez parlé tout à l'heure de poètes québécois, par exemple. Donc, jusqu'où s'exporte l'atelier des Noyers ?
Alors, on a démarré en Bourgogne, puis Bourgogne-Franche-Comté, mais effectivement, nous avons des auteurs et plasticiens d'horizons différents, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, du Québec. Effectivement, l'horizon est plus large et, le champ est vaste, le champ de jeu est vaste. La Slovénie également.
Très bien. Nous allons écouter à présent un autre morceau que vous avez choisi. Il s'agit d'une chanson de Daniel Messia, De la main gauche. Et sincèrement, je vous remercie parce que je ne connaissais pas cette chanteuse.
Ah, il faut connaître Daniel Messia. Une carrière écourtée, malheureusement, mais c'est un nom majeur.
Alors, parlez-nous un petit peu d'elle, justement, et cette chanson.
Alors, De la main gauche, c'est une invitation à accueillir la différence. Donc, quand on parle de diversité et de différence, je pense que c'est tout à fait, c'est tout à fait opportun. Et c'est une personne qui est décédée très jeune et qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait du temps de son vivant, mais qui est maintenant reprise par beaucoup de jeunes chanteurs. Et c'est une voix majeure du XXe siècle. Donc, c'est bien on ne vient pas de rien et faire des clins d'œil aux personnes qui nous ont précédés, c'est une manière aussi d'ouvrir l'horizon.
Et de transmettre.
Et de transmettre, absolument. Ouais.
Et on l'écoute.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si que je l'ai toujours caché. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires.
Faisait les fautes, du moins on
Daniel Messia évoquait, vous disiez tout à l'heure, avant le morceau, la question de la différence. Quelle différence en particulier? On peut en dire un petit mot?
Toutes les différences, je pense. Après, le texte « Je t'écris de la main gauche » a été repris par le milieu lesbien, mais c'est l'acceptation de l'ensemble des différences. Je pense qu'il faut le prendre au sens le plus large possible.
D'accord, très bien. Revenons un petit peu à votre vie, à vos pratiques plus personnelles. Vous pratiquez l'énéagramme et le développement personnel. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices, de quoi il s'agit, l'énéagramme, par exemple.
Ça serait peut-être, il faudrait une émission que pour ça, et je ne suis peut-être pas la meilleure pour le présenter, mais j'ai eu l'occasion, parce qu'il y avait des cursus qui étaient proposés en Bourgogne, de faire justement ce cursus d'énéagramme, et ça permet effectivement de voir les interactions entre les différents types de caractères et la manière dont on arrive à s'associer, à progresser ensemble, ou les endroits où on peut se retrouver en friction. Donc ça éclaire en fait les relations humaines, et j'ai trouvé que c'était un outil qui était vraiment intéressant, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai pratiqué et que je continue à pratiquer et observer.
Voilà, donc vous le réinvestissez dans votre métier d'éditrice.
Et aussi dans mon métier d'éditrice, il y a des croisements qui se font.
Voilà. Vous qui disposez, chère Claire Delbar, d'une carrière ô combien diversifiée, j'ai une petite question à vous poser. Quel autre métier auriez-vous adoré exercer et qui n'apparaît pas justement dans votre CV? Si vous n'avez pas été tout ce que vous avez été, qu'est-ce que vous auriez aimé être?
Alors mon rêve d'enfant, c'était d'être cuisinière. Mais bon, je pense qu'on cuisine les mots.
Ouais, voilà, vous avez trouvé une...
C'était pas forcément un métier pour les femmes, et pas forcément un métier compatible. Alors pas pour les femmes, au sens que nous ne soyons pas capables, mais c'était un métier difficilement compatible avec une vie de famille. Et voilà, donc je pense que... Mais c'est vrai que petite, je voulais être cuisinière.
C'est bien, vous me faites penser au film Les Saveurs du Palais, en parlant de ça, justement, avec la merveilleuse
puis,
Catherine Fraud.
Il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé savoir faire, mais voilà, on fait des choix ou pas d'ailleurs, c'est peut-être ce que nous présente la vie, la manière dont on rebondit sur ce qui nous est proposé, qui est importante.
Donc quand on écrit de la poésie, quelque part, on cuisine les mots.
Alors. On cuisine les mots, oui. On mitonne.
Sans jamais faire... si, on peut porter à ébullition aussi.
Ça peut aussi, oui.
Bien. Allez, parlez-nous des nouveautés de votre catalogue. Qu'est-ce qu'il faut lire aujourd'hui? Qu'est-ce que nos auditrices et nos auditeurs pourraient lire de nouveau?
De nouveau à l'atelier des Noyers. Alors, on a pas mal de nouveautés en ce premier semestre 2026. Dire qu'on a été très occupé l'année dernière et qu'on est encore occupé par la promotion de notre coffret des 4 saisons de la vigne qui a permis de faire une belle mise en avant de notre région avec donc 4 écrivains et une aquarelliste qui ont réalisé ce projet. On a autour de ce projet une exposition qui tourne en Bourgogne, qui a été à la Cité de la Gastronomie, puis à la Cité des Vins à Beaune, qui est actuellement à Autun et qui sera à la rentrée à Gevrey. Et ça nous permet de mettre les richesses de notre région en avant, ce qui est quand même plutôt quelque chose de sympathique par rapport à la poésie. L'idée étant que nous avons mis en avant le travail des hommes et des femmes plutôt que le nectar en lui-même dans ce projet.
Vous pouvez nous parler de ces 4 auteurs et de cette plasticienne?
Des 4 auteurs, bien sûr. Alors, l'aquarelliste qui a réalisé l'ensemble des projets, c'est Anne Lemaitre, qui est une aquarelliste dijonnaise, qui n'a pas que ça comme corde à son arc, puisqu'elle est aussi autrice et directrice de collection chez nous. Et donc, nous avons 4 auteurs différents qui ont été choisis par saison. Christian Sapin, qui a écrit « Le printemps », Colette Nismazur qui a écrit l'été, Alexis Génie qui a écrit l'automne et Olivier Delbar qui a écrit l'hiver. Et nous avons eu la chance de bénéficier de la préface d'Aubert de Villene de la Romanée Conti pour l'ensemble du projet, ce qui est un joli cadeau qui est passé sur notre chemin. Sur les productions de 2026, nous avons mis l'accent sur la production pour le premier semestre parce qu'en fait, on va fêter nos 10 ans à partir de la rentrée, à partir du mois de novembre. Mmh. Et donc, on aura moins de titres sur le deuxième semestre. Donc, on a focalisé l'ensemble de la production sur le premier semestre. On vient de sortir un très joli J'ai rêvé Holt, qui est le pendant dans cette collection d'autres J'ai rêvé, dont on parlera peut-être après. Le texte a été écrit par Marceline Roux et les photos ont été réalisées par Denis Bontemps, et c'est sur Holt en Picardie, sur les lumières de Picardie. Un deuxième titre qui s'appelle J'ai rêvé Saint-Barth, qui a été écrit par Jean-Claude Mail, qui est un auteur que l'on porte, dont on porte les écrits depuis presque 5 ou 6 ans maintenant à l'Atelier des Noyers, qui est un auteur des Caraïbes, mis en image par Lisa Squette et avec des photos d'Olivier Delbar. Et ce titre invite à regarder Saint-Barth autrement que sur son côté bling-bling, mais plutôt sur son côté, son côté terrien, son côté sauvage, et sur la spécificité de cette île-là.
Elle veut dire quoi ? Elle veut transmettre quoi comme message, cette collection J'ai rêvé ?
Alors, J'ai rêvé, on avait déjà J'ai rêvé Ouessant précédemment, et J'ai rêvé Beyrouth. L'idée, c'est un auteur qui choisit un lieu et qui a envie de proposer une balade poétique qui soit loin des clichés. Mmh. Donc, c'est une forme, de carte postale, mais de carte postale personnelle de l'auteur et du plasticien. Dans les auteurs qui sont de notre région, on a le plaisir de publier ce semestre Emmanuel Delorme, qui est chalonnais, et Julia Marco dans un titre qui s'appelle Saisonnier, qui propose de très jolis haïkus, et avec une jeune femme dont le talent est extrêmement prometteur, qui est marketeuse de papier. J'en n'en dirai pas plus parce que je pense qu'elle aura l'occasion peut-être ultérieurement d'expliquer son travail.
Mais oui, je les inviterai.
Ouais, un très très joli titre à suivre. Nous avons également Souffle fragile de notre poète Colette Nismazur, qu'elle a réalisé en binôme avec Marie-Pierre Delorme-Bourg, qui est une femme qui habite pas très loin de Chalon, et qui est réalisé à partir de collages. On avait l'année dernière eu un très joli jardin de l'émerveil, et là, dans Souffle fragile, c'est une invitation à accueillir ce souffle fragile qui est toujours là. Terre au ciel de Sabine de Wolf et Marie de Wolf, un duo mère-fille, un beau duo sur le recueil poétique, sur un travail graphique original, sur le fil tendu entre les générations, un très beau titre à suivre. Dans les auteurs aussi de notre très proche de nous, Yves-Jacques Boin, qui était connu parce que c'est la personne qui a géré le festival Temps de Parole pendant un certain nombre d'années en Bourgogne et qui est poète. Il nous propose un Demain en main dont les images en écho sont de Christine Delbecq, qui est une plasticienne de Saint-Apollinaire.
D'accord.
Un petit peu plus loin en Bourgogne, Le rêve les regarde de Michel Bourson, qui est un poète nivernais, avec une très belle mise en image de Cécile Holban. Une invitation à s'asseoir au bord de l'eau, au bord d'un étang,
à méditer,
regarder ce qui passe. Des singuliers et pluriels, toujours de Colette Nismazur, avec des aquarelles de Philippe Chaudat. Colette Nismazur avait publié il y a une trentaine d'années chez Desclés de Brouwer un titre qui s'appelait Singulière et plurielle, qui offrait des portraits de femmes, et là ce sont des portraits masculins qu'elle nous offre.
Vous disiez d'ailleurs, je reviens sur le fait de s'asseoir au bord de l'eau et de regarder. Vous évoquiez dans la présentation de Catherine Weissmann, que nous avons eu le plaisir d'accueillir ici à Radio Shalom, voilà, mais qu'elle passait beaucoup de temps à méditer au bord de la Saône, puisque c'est le fleuve qui appartient là. Enfin, je vais refaire ma phrase, parce que c'est le fleuve qu'elle chérit tant, puisqu'elle ne vit pas très loin.
Et une invitation au temps long, et je vous remercie d'ailleurs, parce que par votre émission, on peut prendre le temps de présenter les choses. On est dans un temps qui pourrait se rapprocher du temps poétique, qui n'est pas celui des horloges. Un autre titre, sous les kiosques l'hiver, dans la collection Petites Notes que dirige Romain Billard, à l'invitation de l'auteur Marion Plaza et de la plasticienne Caroline Pajot, qui sort juste là au mois de juin. Une superbe rencontre entre Christine Billard et Isabelle Schneider dans Cœur battant. Cœur battant, c'est dans un petit format carré secret, qui nous invite effectivement à écouter ce cœur battant vibrant. Toujours dans la collection Carré secret, Entre deux silences, avec un texte de Mateja Bitsak-Petit, qui est notre poète slovène, mais là le texte a été écrit directement en français, et avec des encres de Marie Delbar, notre fille talentueuse qui vit maintenant en Bretagne.
Lorsque vous dites que le texte a été écrit en français, c'est elle qui l'a écrit ?
C'est elle qui l'a écrit. Elle est bilingue, elle est slovène, sa langue maternelle est le slovène, mais elle écrit directement en français.
Super.
un beau titre de Marie Cellier avec Matteï Negreanu, qui est une personne qui est très connue en sculpture sur verre et en sculpture tout court, mais pas forcément en illustration. Et là, il a fait un très joli binôme avec Marie Cellier. Et enfin, pour terminer, un auteur de Lyon, Éric Poulet-René, qui nous a livré des poses en terre d'éveil, une invitation aussi à observer le temps autour de nous avec une certaine lenteur et avec une certaine forme de méditation. Et nous avons eu la chance d'avoir accès à six images de Caroline Carlson réalisées pour ce titre. Donc six encres qui sont magnifiques. Et voilà, donc ça fait un gros programme, hein, puisque l'ensemble du programme de l'année a été fait sur le premier semestre, mais nous allons pouvoir, durant tout le deuxième semestre, mettre en avant les 10 ans de l'atelier avec la profusion et la richesse des titres d'ensemble de plasticiens et auteurs qui nous ont fait confiance. On aura rendez-vous à l'hôtel de Vauguet du 2 au 7 novembre pour fêter cette chose-là, et puis on va aller dans différents endroits, dans différents départements pour effectivement mettre en avant et fêter ce 10e anniversaire. Avec une thématique que nous avons choisie qui s'appelle, qui va tourner autour du thème des oiseaux. Les oiseaux étant pour moi déjà poétique, rien que par leur essence, et permettant aussi le lien entre différents espaces. Donc c'est une jolie manière, je trouve, d'entrer en poésie que de passer par la thématique des oiseaux. Mmh. Et c'est aussi une thématique qui permet d'aller au-delà des clivages, comme on est quand même dans une société particulièrement clivante actuellement.
Oui.
L'idée de trouver quelque chose qui soit fédérateur, comme le thème des oiseaux, c'était quelque chose qui nous semblait important. On y a sans doute un vent qui passe de ce côté-là, puisque nous ne sommes pas les seuls à travailler sur les oiseaux actuellement. Nous, on a choisi ce thème il y a un peu plus d'un an et demi, quand on a cherché quelque chose qui puisse être fédérateur. Mais il y a plusieurs festivals qui travaillent autour des oiseaux et autour de ce thème. Donc ça doit être dans l'air du temps, j'imagine. En tout cas, on n'invente rien, mais on va essayer de faire quelque chose de beau. Il y aura un joli programme.
Alors Claire, vous suscitez l'envie ou vous êtes plagiée? Vous êtes copiée par ou c'est vraiment...
Alors là, on va rentrer dans des sujets qui sont moins rigolos, que j'ai pas forcément envie de mettre en avant. Bon, il est évident que lorsque l'on fédère ce nombre d'énergies et que l'on est assez actif, bah, il y a un premier temps où on suscite la joie et puis il peut y avoir un moment où on suscite un petit peu le côté envieux. Certaines personnes s'y essayent, mais je pense qu'on a quand même une spécificité à l'atelier des Noyers, et de ce point de vue là je suis pas trop inquiète. On a quand même une particularité qui fait que on peut copier la forme, on n'aura pas forcément le fond.
Et cette spécificité qui fait que je vous ai invité aujourd'hui et avec vraiment grand plaisir pour mettre en valeur tout ce que vous faites.
Mettre en valeur le travail, bah, on est nombreux. Je veux dire, fédérer, la capacité à fédérer et à faire travailler ensemble, c'est une capacité qui est... C'est une qualité, oui, je pense, qui est très importante quand on veut faire le métier d'éditeur.
Oui.
Quand on veut être éditeur, l'idée, c'est qu'on est en quelque part, on aime la place d'arrière-cuisine. Vous disiez tout à l'heure chef d'orchestre, c'est juste, mais il y a aussi le côté un petit peu marionnettiste où on rassemble des personnes et où il faut que le geste soit juste. Mais pour autant, il ne faut pas être forcément attiré par le devant de la scène, et ça tombe bien parce que moi, j'aime beaucoup fédérer. L'idée de mettre en avant, c'est pas forcément mon truc, mais vraiment le sentiment d'accomplissement, de voir l'énergie qui permet de porter les choses dans un contexte qui n'est pas simple, parce que plus ça va, plus c'est compliqué, plus le contexte aussi géopolitique est compliqué, plus on nous met des bâtons dans les roues, ne serait-ce qu'au niveau administratif, avec toutes les choses qu'on nous demande, y compris la facture électronique, qui est juste un truc complètement ahurissant pour des structures comme nous. Mais en même temps, je veux dire, avoir cette capacité à fédérer et à porter, bah, ça donne de la joie. Et dans le monde où on est, bah, avoir de la joie, c'est quand même... c'est bien, quoi.
Ah non, mais carrément, j'allais dire, fédérer dans un monde de plus en plus individualiste, c'est un véritable défi.
C'est un vrai défi, et c'est aussi un défi économique, parce que concrètement, ouais. je ne cache pas le fait que si je n'avais pas un mari qui travaille, je ne pourrais pas proposer ce format-là et ce modèle économique-là. Mais ouais. Pour moi, ça me paraît important. Bah, c'est de la manière de... Quand on peut le faire, on a chacun à trouver comment on peut contribuer. Moi, ma contribution à la société actuellement... C'est l'atelier des Noyers. À chacun de trouver sa... Et la poésie. À chacun de trouver son axe, en fait.
Comment voyez-vous de l'avenir, chère Claire Dalbar? Quels sont vos projets pour demain? Et vous disiez tout à l'heure que vous avanciez en âge sans vouloir être désagréable. Quel avenir aussi? Peut-être qu'un jour, vous aurez envie de passer la main. Comment passerez-vous la main pour que l'atelier des Noyers perdure?
Paradoxalement, on pourrait croire que l'atelier des Noyers, c'est la réalisation de, ou l'action d'une personne. Non, c'est l'action d'un collectif. Donc effectivement, j'arrive à un âge où il va falloir de toute façon, ne serait-ce que pour la santé, que je ralentisse un petit peu mes activités. J'ai pas de souci par rapport à ça. Ce que je souhaite, c'est que l'énergie que j'ai mise dans ce projet, soit perdure. Donc en fait, forcément, si quelqu'un reprend l'atelier de nettoyer, ce que je souhaite, je ne sais pas encore, c'est pas encore défini. Que ça soit quelqu'un qui ait envie de continuer à mettre en avant l'esprit de ce que nous avons mis en avant, mais avec des orientations différentes, parce que forcément, une sensibilité individuelle n'est pas, ne se partage pas forcément,
ne se reproduit pas forcément.
Donc, le ou la personne qui sera amenée à prendre la suite de l'atelier aura des points communs avec, avec moi, c'est certain, mais aura sans doute ses propres envies, et c'est très bien. Et j'ai pas de souci par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas encore, mais si nous devions fermer l'atelier des Noyers parce que je ne trouve pas ultérieurement de repreneur ou de repreneuse, ça serait une forme de tristesse parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie mise dans dans cette action-là. En même temps, personne n'est indispensable et toute forme de structure peut aussi vivre à un certain moment et ne pas perdurer. Il y a des maisons d'édition qui ouvrent, d'autres qui ferment. Mais on n'en est pas là et pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose qui est ascendant et avec des envies. Déjà là, on va fêter durant toute l'année 2026, à partir de novembre et toute l'année 2026-27, les 10 ans d'atelier, 10 ans de collaboration. C'est déjà quelque chose de très beau et peut-être que la forme qui perdurera avec l'atelier des Noyers sera différente de ce que nous faisons, ne serait-ce que par les contraintes économiques qui sont grandissantes et qui font que... il n'y aura peut-être pas autant de titres publiés ou les mêmes orientations, mais ça, on verra comment le moment venu. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a, pas, il y a l'atelier des Noyers, c'est une partie de ma vie, mais il y a aussi d'autres choses dans ma vie. Donc voilà.
Très bien. Alors, les projets à long terme, enfin à moyen terme plutôt, les projets à moyen terme, à court terme, à moyen terme.
Alors le tout court terme pour l'atelier des Noyers, ce sont les différents salons et dernier livre de 2026 que nous allons publier au deuxième semestre. Le moyen terme, ça va être la manière dont on structure la promotion et le développement de cette présence en librairie, sachant que le secteur de la librairie est très souffrant actuellement. Donc, c'est compliqué aussi parce que petite structure égale petite visibilité. Donc, il faut essayer de réfléchir à d'autres modèles et puis peut-être à des manières aussi de fédérer ensemble des acteurs qui pourraient avoir les mêmes valeurs. Ça pourrait faire partie des choses intéressantes à développer, pour autant que nous ayons des valeurs qui soient des valeurs compatibles et non pas concurrentielles.
Vous voulez dire une forme de consortium ?
Moi, je pense que j'ai pas forcément l'âge pour voir à long terme ce que ça va devenir. Mais il me semble que fédérer des acteurs du livre autour de plateformes communes, entre autres de plateformes administratives, serait un gain de temps précieux pour les acteurs. Après, il faut pouvoir travailler avec des gens qui soient des gens loyaux et des personnes qui travaillent de manière suffisamment, avec des fonds éditoriaux suffisamment différents pour que ça n'entre pas en concurrence directe.
Et en privilégiant l'intérêt collectif, évidemment.
En privilégiant l'intérêt collectif. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui a plutôt tendance
à faire le contraire.
À valoriser l'individualisme.
Voilà.
Mais il y a des belles maisons qui sont prêtes, je pense aussi, pas forcément qu'en région d'ailleurs, mais à collaborer sur certains points au moins. Et puis des initiatives qui sont mises en place aussi pour essayer de fédérer les acteurs. Donc ça, c'est bien.
Nous terminerons vos choix musicaux par Stéphane Escher. Si tu veux que je chante. Pourquoi cette chanson ?
Parce que je la trouve très gaie, que vous me posiez la question tout à l'heure de ce que j'aurais pu aimer avoir comme qualité. J'aurais adoré pouvoir bien chanter, mais ce n'est pas une corde que j'ai à mon arc.
Ah, j'allais vous poser la question. Parce que j'ai fait chanter Catherine la dernière émission.
Je ne pourrais pas chanter avec Stéphane Aichard. Deux, trois, quatre, je reprends. J'ai pitié des oreilles de vos auditeurs et je pense que ça serait pas une bonne chose.
Très bien. Alors, on va écouter Stéphane, alors. Hein?
Merci.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille. Le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Ainsi se termine cet entretien et je vous remercie du fond du cœur, Claire Delbar, d'avoir accepté de nous rendre visite dans les studios de Radio Shalom, Bourgogne. Quand je lis votre parcours, quand je vous écoute parler aujourd'hui de votre métier d'éditrice, je ne sais pas pourquoi il me vient à l'esprit le titre d'une belle chanson d'amour interprétée par la longue Dame Brune. Et j'ai l'impression au fond que pour ce monde de l'édition, vous pourriez dire « Ma plus belle histoire d'amour, c'est l'édition
la poésie. Et la poésie. Poésie.
Et la poésie. » Merci infiniment en tout cas et je vous laisse le mot de la fin comme je le fais à chaque fois pour mes invités.
Merci Frédéric et merci pour la poésie.
Mmh.